Chapitre 2. À l'époque où nous sommes arrivés, c'est-à-dire l'an 80 avant Jésus-Christ, Rome n'est point encore la Rome que Virgile appelle la plus belle des choses, que le rhéteur Aristide appelle la capitale des peuples, qu'Athénée appelle l'abrégé du monde et Polémon le sophiste la ville des villes. Ce n'est que 80 ans plus tard, vers l'époque correspondante à la naissance du Christ, qu'Auguste dira « Voyez cette Rome, je l'ai prise de briques et je la laisserai de marbre. » En effet, le travail d'Auguste, dont nous n'avons pas à nous occuper à cette heure, et dont néanmoins nous ne sommes pas fâchés de dire un mot en passant, le travail d'Auguste peut se comparer à celui qui se fait aujourd'hui chez nous et qui change l'aspect de cette autre chose, la plus belle des choses, de cette autre capitale des peuples, de cette autre abrégée du monde, de cette autre ville des villes qu'on appelle Paris. Revenons à la Rome de Sylla. Voyons d'où elle était partie, voyons où elle était arrivée. Tâchez de retrouver, au milieu de cet amas confus de maisons qui couvrent les sept collines, deux buttes hautes comme ce que nous appelons la montagne Sainte-Geneviève et que l'on nomme, ou plutôt que l'on nommait, Saturnia et Palatium. Saturnia est le village de Chaume fondé par Évandre. Palatium est le cratère d'un volcan éteint. Entre ces deux buttes passe une étroite vallée. C'était autrefois un bois, c'est aujourd'hui le forum. C'est dans ce bois que furent retrouvés les deux jumeaux historiques et la louve nourricière. Rome est partie de là. 432 ans après la prise de Troie, 250 ans après la mort de Salomon, au commencement de la 7e Olympiade, dans la première année du gouvernement décennal de l'archonte athénien Kérops, l'Inde étant déjà décrépite, l'Égypte penchant vers la décadence, la Grèce montant les premières marches de la grandeur, l'Étrurie étant à son apogée, tout l'Occident et tout le Nord demeurant encore dans les ténèbres, Numitor, roi des Albains, donna à ses deux petits-fils, Romulus et Rémus, bâtards de Réa Silvia, sa fille, la place où ils avaient été exposés et trouvés. Romulus et Rémus étaient les deux jumeaux trouvés dans le bois où les allaitait la louve. Le bois où les allaitait la louve, c'était le bois situé dans la vallée entre Saturnia et Palatium. Aujourd'hui, vous retrouverez encore la source qui arrosait ce bois. Elle est connue sous le nom de Fontaine Juturne. C'est la sœur de Turnus qui, au dire de Virgile, pleure éternellement la mort de son frère. Prenons ici l'histoire au point de vue de la tradition. Nous n'avons point le temps de l'examiner comme mythe. Sur la plus élevée de ces deux montagnes, Romulus trace une ligne circulaire. « Ma ville s'appellera Rome, dit-il, et voilà l'enceinte de ses murailles. »« Belle muraille, dit Rémus en sautant par-dessus la ligne tracée. » Romulus ne cherchait probablement qu'une occasion de se débarrasser de son frère. Il l'assomma, disent les uns, avec le bâton qu'il portait à la main. Il le tua, disent les autres, en lui passant son épée au travers du corps. Rémus mort, Romulus creusa l'enceinte de la ville avec une charrue. Le socle de la charrue heurta une tête d'homme. « Bon, dit-il, je savais déjà que ma ville s'appellerait Rome. La citadelle s'appellera le Capitole. » Ruma, mamelle, caput, tête. En effet, le Capitole sera la tête du monde antique. Rome sera la mamelle où les peuples modernes puiseront la foi. Le titre, comme on voit, est doublement symbolique. En ce moment, 12 vautours passent. « Je promets à ma ville, dit Romulus, 12 siècles de royauté. » Et de Romulus à Augustule, 12 siècles s'écoulent. Alors, Romulus fait le recensement de son armée. Il a autour de lui 3000 hommes d'infanterie et 300 cavaliers. C'est le noyau du peuple romain. 175 ans après ce jour, Servius Tullius fait un recensement. Il trouve 85 000 citoyens en état de porter les armes et il trace une nouvelle enceinte où peuvent habiter 260 000 hommes. Cette enceinte, c'était le Pomerium, limite sacrée, enceinte inviolable, qui ne pouvait être agrandie que par ceux qui avaient conquis une province sur les barbares. Sylla profita de la permission en 674, César en 710, Auguste en 740. En dehors de cette enceinte, s'étendait un espace consacré où l'on ne pouvait ni bâtir ni labourer. Mais bientôt, ce qui n'était pour homme qu'une ceinture lâche et flottante, comme celle qui serrait la taille de César, devient un carcan qui l'étouffe. Au fur et à mesure qu'elle conquiert l'Italie, l'Italie la conquiert. Au fur et à mesure qu'elle envahit le monde l'envahit. Et puis, il faut le dire, Rome a de suprêmes privilèges. Le titre de citoyen romain confère de grands honneurs et surtout de grands droits. Le citoyen romain est payé pour voter au forum et va gratis au cirque. Mais tous ces agrandissements furent peu de choses. L'enceinte de la ville, dit Denis d'Halicarnasse qui écrit du temps d'Auguste, ne s'est pas étendue davantage, le lieu ne le permettant pas. Autour de Rome, il est vrai, se trouve une ceinture de villes municipes investies du droit de suffrage. Ces villes sont des Roms en miniature, ce sont les vieilles cités sabines, Tusculum, Lavinium, Aricia, Pedum, Nomentum, Privernum, Cum, Acer. On leur a adjoint Fondi, Formiès, Arpinum. Puis viennent les municipes sans droit de suffrage, 47 colonies fondées avant la guerre punique dans l'Italie centrale, 20 autres s'écartant encore plus de la ville, car déjà l'on ne dit plus Rome, on dit la ville, toutes ces colonies ayant droit de cité, mais non pas droit de suffrage. Ainsi Rome, au haut de la spirale, comme la statue sur la colonne. Au-dessous de Rome, les municipes, ou villes ayant droit de cité et de vote. Au-dessous des municipes, les colonies, n'ayant plus que droit de cité. Enfin, au-dessous des colonies, les Latins, les Italiens, dont le gouvernement avait pris les meilleures terres au bénéfice des colons. Ces derniers étaient exempts des tribus d'argent, mais ils n'étaient pas exempts du tribut de la chair. Ils recrutaient les armées romaines. Puis ils étaient traités à peu près comme des peuples conquis, eux qui servaient à conquérir les peuples. L'an 172, l'année de la défaite des Perses, un consul ordonne à ceux de Prénès de venir au-devant de lui et de lui préparer un logement et des chevaux. Un autre fait battre de verge les magistrats d'une ville qui ne lui ont pas fourni de vivres. Un censeur qui construit un temple fait enlever le toit du temple de Junon Lacinienne, le temple le plus sacré de l'Italie, pour achever le sien. À Ferrante, un prêteur, qui veut se baigner dans les bains publics, en chasse tout le monde et fait battre de verge un des questeurs de la ville qui a voulu s'opposer à cette fantaisie. Un bouvier de Vénusium rencontre un citoyen romain porté dans sa litière, un simple citoyen, vous entendez ? « Bon, dit le bouvier aux esclaves, est-ce que vous portez un mort ?» Ce mot déplaît au voyageur qui le fait expirer sous le bâton. Enfin, à Théanum, un prêteur fait battre de verge les magistrats parce que sa femme, qui avait eu l'idée d'aller au bain à une heure inaccoutumée, n'a pas trouvé ses bains libres, quoique, une heure auparavant, elle ait signalé son intention. Rien de cela ne serait jamais arrivé à Rome. C'est qu'en effet, Rome ne se révèle aux provinces que par ses proconsuls. Et de quelle façon les proconsuls traitent-ils les provinces? Nous venons d'en voir quelques exemples. Ce n'est rien que ce que nous venons de dire. Voyez Verrès en Sicile, Pison en Macédoine, Gabinius en Syrie, Fontenus en Gaule. Lisez Cicéron. Tout le monde connaît son accusation contre Verrès. Quant à Pison, il lève en Achaïe des impôts pour son propre compte, oblige les plus nobles filles à devenir ses maîtresses. Plus de 20 se jettent dans des puits pour échapper à la couche proconsulaire. Gabinius tient plus à l'argent qu'aux femmes. Il crie à tue-tête que tout lui appartient en Syrie et qu'il a payé son proconsulat assez cher pour qu'il ait le droit de tout vendre. Enfin, ouvrez Cicéron toujours, cherchez aux lettres à Atticus, et vous verrez dans quel état se trouve la Bithynie quand, proconsul à son tour, il succède à Atticus, et quel est l'étonnement des populations quand il déclare qu'il se contente de 2 200 000 sesterces, c'est-à-dire des 440 000 francs que le Sénat lui donne, et que, moyennant cette somme, il n'a besoin ni de bois pour sa tente, ni de blé pour sa suite, ni de foin pour ses chevaux. Dans la société antique, la capitale est tout, la province n'est rien. Numance prise, l'Espagne est aux Romains. Il en est ainsi de Carthage qui livre l'Afrique, de Syracuse qui livre la Sicile, de Corinthe qui livre la Grèce. Jugez donc de ce qu'est Rome à qui les augures promettent l'empire du monde quand il en est ainsi des autres capitales. Tout vient à elle, riche pour jouir, pauvre pour manger, citoyen nouveau pour vendre son vote, rhéteur pour ouvrir son école, chaldéen pour dire la bonne aventure. Rome, c'est la source de tout. Pain, honneur, fortune, plaisir. On trouve de tout à Rome. L'an 565, le Sénat a beau en chasser 12 000 familles latines. L'an 581, 16 000 habitants. L'an 626, tous les étrangers. Que sais-je, moi? J'oublie la loi Fania, la loi Mucia Licinia, la loi Papia, qui sont autant de saignées à la population. Cela n'empêche point que Rome, qui ne peut s'étendre en superficie, ne s'élance en hauteur, et qu'Auguste, vous verrez cela dans Vitruve, ne soit obligé de rendre une loi qui défend de bâtir des maisons de plus de 6 étages. Aussi voyons-nous que, quelque temps avant l'époque où nous sommes arrivés, Sylla relâche d'un cran la ceinture de Rome qui commençait à craquer. Dans quelle proportion chronologique Rome s'est-elle augmentée peu à peu? Nous allons le dire. Sa première révolution faite, Brutus et Collatin nommés consuls, Rome s'occupe d'abord de repousser hors d'elle l'élément étrusque, comme la France d'Hugues Capet repoussa l'élément carovingien. Puis elle passa à la conquête des territoires environnants. Après s'être agrégé les Latins et les Herniques, elle soumet les Volsques, prend Véies, jette les Gaulois en bas du Capitole, remet à Papirius Cursor la conduite de la guerre des Samnites qui embrasera l'Italie, de l'Étrurie à la pointe du Régium. Puis, regardant autour d'elle, voyant l'Italie soumise, elle passe aux conquêtes étrangères. Duluse lui soumet la Sardaigne, la Corse et la Sicile, Scipion l'Espagne, Polémile la Macédoine, Sextius la Gaule transalpine. Là, il y a une halte, Rome s'arrête. De ce sommet des Alpes qu'elle a entrevu à travers les neiges, descend Hannibal, il frappe 3 coups, et à chacun de ces coups, fait à Rome une blessure presque mortelle. Ces blessures s'appellent trébie, trasimène et canne. Par bonheur pour Rome, Hannibal est abandonné par le parti des marchands, on le laisse en Italie sans argent, sans hommes, sans renfort. Scipion, de son côté, passe en Afrique. Hannibal a manqué prendre Rome, Scipion va prendre Carthage. Hannibal se place entre lui et la ville africaine et perd la bataille de Zama, se réfugie chez Prusias et s'y empoisonne pour ne pas tomber au pouvoir des Romains. Ce grand ennemi abattu, la conquête reprend son cours. Antiochus livre la Syrie, Philippe V la Grèce, Jugurtha la Numidie. Alors Rome n'aura plus qu'à conquérir l'Égypte et elle sera maîtresse de ce grand lac qu'on appelle la Méditerranée, bassin merveilleux creusé pour la civilisation de tous les âges que traversent les Égyptiens allant peupler la Grèce, les Phéniciens allant fonder Carthage, les Phocéens allant bâtir Marseille, vaste miroir où sont réfléchis tour à tour Troie, Canope, Tyr, Carthage, Alexandrie, Athènes, Tarente, Sybaris, Régium, Syracuse, Célinonte et Numance, et où Rome se réfléchit elle-même, majestueuse, puissante, invincible. Couchée aux rives septentrionales de ce lac, elle étend un de ses bras vers Ostie, l'autre vers Brinde, et elle a sous sa main les 3 parties du monde connu, l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Grâce à ce lac, avant 60 ans écoulés, elle ira à tout et partout. Par le Rhône au cœur de la Gaule, par l'Éridan au cœur de l'Italie, par le Tage au cœur de l'Espagne, par le détroit de Cadix à l'océan et aux îles Cassitérides, c'est-à-dire en Angleterre, par le détroit de Sextos au pont Euxin, c'est-à-dire à la Tartarie, par la mer Rouge à l'Inde, au Tibet, à l'océan Pacifique, c'est-à-dire à l'immensité, par le Nil enfin, à Memphis, à Éléphantine, à l'Éthiopie, au désert, c'est-à-dire à l'inconnu. Voilà cette Rome que viennent se disputer Marius et Sylla, que vont se disputer César et Pompée, et dont héritera Auguste.